Je voudrais vraiment remercier l'équipe de Louange pour ce que vous faites parce que c'est remarquable. Vous ne trouvez pas? Ouais. Je ne sais pas si votre semaine ou votre week-end a été bon, mais en tout cas, en arrivant ici, vous pouvez venir charger, et puis ils vous prennent là où vous êtes, puis ils vous élèvent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se rencontre dans l'église, c'est une des raisons pour lesquelles on vient, c'est justement pour partager ce genre de moments. Pour recharger ses batteries, pas que, vous êtes aussi ici pour apporter un culte d'adoration. Vous avez une action, une activité à remplir, mais c'est tellement bon de savoir que quand on en a plein les gros sur les épaules, gros sur le cœur, plein les chaussures, comme vous voulez le dire, mais en tout cas, ils vous prennent là où vous êtes et ils vous élèvent dans la présence de Dieu. Chapeau. Ça prend un don de faire ça et c'est un don qui vient de Dieu. Vous êtes content d'avoir des chantres de cette qualité? Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont au milieu de nous et qui ont passé jusqu'à maintenant la réunion sur leur chaise. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que Dieu appelle pour remplir les équipes. Vous croyez pas? Pourquoi j'ai pas entendu autant d'amen? Vous croyez pas? Mais oui, il y en a, bien sûr, il y en a. Voilà, on est très heureux, Rachel et moi, d'être au milieu de vous. Vous savez, on dit que les hirondelles annoncent le printemps. Quand on voyait les Dufours, ça annonce l'été. On est toujours là l'été en règle générale. C'était pas terrible jusqu'à maintenant, mais heureusement qu'on a plus de joie dans le cœur qui dépend pas du temps qu'il fait. Mais là, ça s'est amélioré. Vous trouvez pas depuis qu'on a commencé à chanter, le soleil est venu. J'aimerais vous parler ce matin d'un commandement qui est oublié. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un géologue ou un archéologue qui est allé en Israël et qui a ouvert, qui a trouvé une grotte que personne n'avait trouvée, qui a dans un vase a trouvé des rouleaux, et puis non. Il n'y a pas eu de commandement nouveau qui a été découvert parce qu'il avait été oublié. On a tout ce dont on a besoin dans l'Écriture. Depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tout est inspiré par Dieu, et je crois que c'est tout suffisant pour qu'on ait notre salut, qu'on soit sauvé, qu'on ait fait la paix avec Dieu, qu'on soit réconcilié avec lui. On a tout ce dont on a besoin pour recevoir la guérison divine, pour recevoir des délivrances, pour marcher avec Dieu dans les moments difficiles comme dans les moments plus simples et pour aller jusqu'au bout et rester fidèle. Donc le commandement oublié dont je vais vous parler, il n'a pas été oublié parce qu'il n'a pas été trouvé. Il est dans l'Écriture, mais il a été oublié par nous. Et j'aimerais que ce matin, on passe un petit peu de temps à nous préoccuper de cela. Vous êtes d'accord? Donc, on va lire ensemble dans Marc. Oh, j'ai dit ce matin. Ah, je suis désolé, c'est cet après-midi, oui. Mais vous aviez corrigé. C'est parce que je n'ai pas eu mon café, c'est pour ça. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Marc, chapitre 12, verset 28. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, donc de Jésus. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Amen. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. J'aime beaucoup que la façon dont Jésus peut clore une discussion, il n'y a rien à rajouter parce qu'en fait, il a dit tout ce qu'on pouvait dire à propos de ça. Et ça ne servira à rien de philosopher pendant des heures et de tourner en rond. Par contre, il a dit à cet homme, tu es intelligent. Ça, c'est plutôt un beau compliment, non, de la part de Christ. Ce n'est pas une intelligence qui est basée sur les études. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a tous des capacités un petit peu différentes. Certains sont super doués, d'autres moins. Certains sont travailleurs, d'autres moins. C'est une intelligence qui est une intelligence de l'âme et du cœur. Et celle-là, on la possède tous. C'est celle qui nous permet de comprendre le cœur de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir fait des études de théologie, vous pouvez en faire, je n'ai rien contre. Mais cette intelligence-là, celle que Dieu cherche et celle pour laquelle il a complimenté cet homme, elle vient de votre capacité à répondre à son amour, à répondre et à entendre et recevoir l'amour de Dieu pour nous. C'est exactement de cela dont je voudrais vous parler ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien les petits trucs mnémotechniques, c'est-à-dire ce qui me permet, une clé qui me permet d'ouvrir une porte et après d'avoir accès à plus de choses. Et là, Jésus dit, voilà, il y a deux commandements qui résument toute la loi. Et vous avez 66 livres résumés en deux versets. Ça ne vous plairait pas, ça? C'est plutôt bien, non? Si Jésus dit toute la Bible est résumée dans ces deux versets, combien d'entre vous savez qu'il vaut mieux les apprendre par cœur? Et non seulement les apprendre par cœur, mais en plus les vivre. Parce que apprendre par cœur, c'est bien, mais ça ne suffit pas et de loin. Ce qu'il faut, c'est les mettre en pratique. Alors, quand Jésus dit, attention, ces deux-là, ce sont les deux plus importants, à mon avis, ça devrait nous faire nous arrêter et faire attention à ce qu'il est en train de dire. Le premier commandement, on comprend tous ce que ça signifie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Amen. Vous y arrivez? Tous les jours? Ah, j'ai entendu un amen, puis après plus rien. Non, pas tous les jours, c'est pas possible, je suis d'accord. Par contre, on voit à peu près ce que ça veut dire et c'est ce que l'on veut avoir comme état d'esprit. Bien sûr qu'on sait que des fois on n'y arrive pas. Bien sûr qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Mais c'est notre état de cœur, notre état d'esprit et je veux arriver à aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de tout ce qui fait que je suis qui je suis. Le second commandement, tu aimes ton prochain, alors là on comprend ce que ça veut dire, c'est pour ça que l'on sert Dieu, c'est pour ça qu'on rend témoignage de son amour, qu'on rend témoignage de sa capacité à nous sauver, à nous guérir, à nous délivrer. C'est pour ça que vous êtes appelés, que vous le faites sans aucun doute, à partager votre foi autour de vous, dans votre quartier, dans votre famille, à l'école, à l'université, au boulot, là où vous êtes son témoin parce que vous croyez qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui a donné son Fils pour notre salut et le salut de ceux qui entendent son message et qui l'acceptent. Vous êtes d'accord? Jusque-là, tout va bien parce que ça constitue la plus grande partie de la vie des chrétiens et l'immense majorité d'entre nous, c'est la foi que nous vivons tous les jours. Et c'est parfait. Sauf que je viens de vous mentir et vous ne m'avez rien dit. Parce que j'ai dit, aime ton prochain. Et le problème, c'est que le verset, il est incomplet, je l'ai entendu là-bas, mais tu aimeras ton prochain comme, pas plus, comme toi-même. Et j'ai une constance dans mes études, c'est que j'ai toujours été, de la maternelle jusqu'à plus tard, nul en maths. Mais j'étais très constant et très fidèle dans cette nullité en maths, mais j'en ai jamais dérogé, c'était très important pour moi. Par contre, j'ai compris un truc, c'est quand vous avez une équation avec des inconnus, il faut trouver la valeur de l'inconnu. Et tant que vous ne l'avez pas trouvé, le petit X ou l'Y vous pose des cauchemars parce qu'il ne vous révèle pas spontanément qui il est et ce qu'il veut dire. Et ici, il y a une équation et l'inconnu, c'est celle-là. Il est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce comme toi-même est la condition, la précondition par laquelle on sera rendu capable d'aimer notre prochain. Et si je ne m'aime pas moi-même, je ne suis pas capable d'aimer mon prochain. Et ça va plus loin, si je ne m'aime pas moi-même, comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Parce que je n'aime pas comment il m'a fait et je n'aime pas ce qu'il dit à mon sujet dans l'Écriture puisque je ne le crois pas. Donc, si vous êtes toujours d'accord avec moi, quand on ne vit pas ce « tu t'aimeras » d'abord pour pouvoir vivre le reste, eh bien, et quand on est en violation quelque part des deux commandements que Jésus dit être les plus importants, on a un problème. J'aimerais qu'aujourd'hui, pour vous-même, vous tombiez le masque. Je sais qu'on est dimanche, je sais qu'on est tous capables d'avoir un masque chrétien qui dit que tout va bien, mais si on avait quelques instants de sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, combien diraient ici que c'est facile de dire que l'on s'aime? C'est facile de dire qu'on apprécie qui l'on est et qu'on pourrait le proclamer facilement. Et que c'est quelque chose avec lequel on est OK tous les jours. Peut-être que ça dépend des personnalités, ça dépend des caractères. Il y en a qui arrivent beaucoup mieux que d'autres. Mais tous, plus ou moins, dans notre marche avec Dieu, nous avons eu des problèmes avec cela. Et tous les jours, on n'est pas satisfait de nous, on n'a pas cet amour pour soi, comme Dieu voudrait que nous nous aimions, comme Lui nous aime. Alors comment est-ce possible que, alors on serve Dieu, on essaie d'obéir à ce qu'il nous demande, si on n'est pas convaincu nous-mêmes que ce que l'on annonce aux autres, on le vit? Comment est-ce qu'on peut annoncer quelque chose dans lequel on ne croit pas entièrement? Comment est-ce qu'on peut dire « mais Dieu t'aime » quand nous-mêmes on ne le vit pas? Est-ce qu'on essaie d'attirer l'attention de Dieu sur nous? Est-ce qu'on essaie de trouver comme ça qui nous sommes? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sûr de son amour? Qu'est-ce qui fait que ça m'empêche de complètement adhérer? Vous pouvez dire « mais si, mais j'aime Dieu, mais d'accord, tu aimes Dieu, mais pourquoi c'est si difficile de t'aimer toi-même et de croire dans ce que je viens de dire ?» S'il y avait une seule chose que je voudrais que vous reteniez de cet après-midi, de ce que je vous partage, c'est qu'en fait, Dieu veut que vous aimiez de la façon dont il vous aime et qu'il est fou d'amour pour vous. C'est dommage que vous ne m'ayez pas donné une volée de Amen là. Il est fou d'amour pour vous. Vous savez ce que ça veut dire être fou d'amour pour quelqu'un? Si ça ne vous est pas arrivé, je souhaite que ça vous arrive. Il n'est jamais trop tard. C'est ce qui faisait que quand j'étais à l'époque très lointaine où il y avait encore le service militaire, j'étais basé à Rochefort-sur-Mer et je prenais des trains militaires de nuit. Vous savez pas ce que c'est, ça n'a aucun intérêt. On est tous empilés les uns sur les autres et au bout de la nuit, on prend des chaussures qui ne sont pas forcément les siennes. Et je faisais tout ça aller-retour en un week-end, des heures et des heures pour voir ma belle qui est ici. Pendant quelques heures, mais ça valait le coup parce que son sourire me faisait oublier toutes les heures de train, etc. Parce que être fou d'amour, c'est tout faire pour pouvoir plaire à l'autre et partager l'amour qu'on a ensemble. Dieu est fou d'amour pour toi. Et rien ne l'arrête pour te démontrer son amour. La Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui ait confiance en lui, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pourrez me dire, mais ça d'accord, c'est valable pour tout le monde. Ça je le sais, je le crois, mais ce n'est pas assez personnel. Ok, c'est vrai, ce n'est peut-être pas assez personnel pour vous cet après-midi. Mais il nous dit aussi qu'il nous a créés et qu'il nous a connus avant même la fondation du monde et que quand tu étais dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Ça devient plus personnel là? Avant même la création de l'univers, avant même le Big Bang, s'il y a eu Big Bang, Dieu te connaissait et t'aimait déjà. Et puis il dit aussi qu'il connaît le nombre exact de tes cheveux, même si c'est plus simple pour certains que pour d'autres. Et puis il dit aussi qu'il connaît tes larmes, qu'il connaît tes complexes, qu'il entend tes pensées, qu'il sait ce qui te garde éveillé la nuit au lieu de dormir, ce qui te coupe l'appétit, tes luttes intérieures, Dieu les connaît nuit et jour, ils sondent ton cœur parce qu'il t'aime. Laissez-moi rectifier, parce qu'il est fou d'amour. Alors, il sait aussi, évidemment, que tu ne t'aimes pas vraiment comme lui t'aime. Il serait difficile de dire « je suis fou d'amour avec moi-même ». Vous n'avez pas besoin de le dire, il faut le vivre. Ça, c'est la seule chose, vous n'avez pas besoin de l'exprimer forcément, mais les gens pourraient dire ils sont un peu bizarres à Créteil, là-bas. Mais Dieu voudrait que nous le vivions. Et ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que comment est-ce qu'on peut enseigner, partager aux autres son amour si on ne le reçoit pas? Comment on peut l'affirmer que Dieu nous aime si on est en désaccord avec cela, voire même si on rejette son amour pour nous? Parce qu'on peut aussi en être au point de rejeter son amour pour nous, de ne plus y croire. Alors j'aimerais vous proposer de faire quelque chose ensemble. D'abord on voit les symptômes, après on voit les causes, ensuite les solutions, et puis pour terminer, je vous proposerai de prendre une décision. D'accord? Quand je vous dis maintenant, on touche à la fin, vous allez prendre une décision, c'est juste le début de la fin, je n'ai pas fini de conclure. Vous savez, le pasteur doit conclure à peu près 4 fois avant de pouvoir vraiment conclure. Les symptômes, on les a tous plus ou moins, ça dépend de notre personnalité, ça dépend de notre étape dans la vie, de là où on en est, mais on les vit tous plus ou moins à des moments donnés de notre marche avec lui. Vous vous rappelez les deux fils dans Luc 15, dans l'évangile de Luc chapitre 15, il y en a un qui a dilapidé sa vie, qui a dilapidé son argent, qui a fait n'importe quoi, puis il revient vers le père. Et quand le père court au-devant de lui, il lui dit « Je ne peux plus être ton fils ». C'est-à-dire que j'ai fait tellement de choses, et c'est peut-être là où vous en êtes cet après-midi, vous êtes en train de revenir, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes en train de revenir vers Dieu, mais je ne peux plus être aimé de toi après ce que j'ai fait. Ce n'est pas possible. Je n'y arrive même pas moi-même. Comment pourrais-tu m'aimer? Il dit, traite-moi comme un serviteur, traite-moi comme un esclave, traite-moi comme l'un de ceux qui sont dans ta maison, mais tu ne peux plus m'appeler ta fille et tu ne peux plus m'appeler ton fils. C'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ou alors vous êtes comme le frère aîné, qui sert, qui fait son maximum, mais qui ne sait jamais s'il en a fait assez pour mériter l'amour de son père, pour obtenir quelque chose de lui. En fait, il est constamment dans l'incertitude. Il n'a pas de garantie qu'il fait assez dans son service pour plaire au père, parce qu'il n'a pas compris comment fonctionne l'amour du père. Je ne sais pas où est-ce, dans quelle catégorie vous vous rangez, mais je voudrais vous donner une petite liste de symptômes, et puis ne me répondez pas, mais faites-le pour vous. C'est basé sur 1 Corinthiens 13, dans des versets 4 à 8, la définition de l'amour. Je voudrais simplement que vous posiez cette question. Êtes-vous patient avec vous-même? Êtes-vous plein de bonté envers vous-même? Êtes-vous plein d'amour vis-à-vis de vous-même, satisfait de qui vous êtes, non pas d'une manière orgueilleuse, non pas en se disant « mais voilà, je suis arrivé au maximum, je n'ai plus rien à apprendre ». On a tous besoin d'apprendre encore, On a tous besoin de faire des progrès, mais êtes-vous content de qui vous êtes, avec une vraie satisfaction intérieure? Ou avez-vous besoin de vous mettre en avant, de vous faire valoir? Parce qu'en fait, vous avez peut-être encore des envies par rapport aux autres. Ou bien non, vous êtes sans envie, vous n'avez pas besoin de vous faire valoir. Vous êtes en confiance par rapport à qui vous êtes, votre personnalité, et vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Parvenez-vous à pardonner vos erreurs, à vous remettre en cause et à vous remettre de vos erreurs après vous les être pardonnés? Ou bien alors, est-ce que vous êtes super dur avec vous-même, plus dur que vous ne le seriez avec quelqu'un d'autre, en doutant de vos capacités, en vous accusant souvent de ne pas avoir fait ceci ou d'avoir fait cela, sans pitié, sans pardon, en ayant une attitude assez implacable, de dire « mais je ne mérite pas telle ou telle chose » ou « eux, c'est valable pour eux, mais pour moi, ça ne s'appliquera pas. » Parce que je ne suis pas ceci ou je ne suis pas cela, parce que je n'y arriverai jamais. Est-ce que vous employez souvent ce genre de terminologie dans vos pensées par rapport à vous? Si c'est le cas, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que vous ne pourrez jamais aimer votre prochain plus que vous n'êtes capable de vous aimer vous-même. En fait, si vous pensez aimer votre prochain, vous vous mentez à vous-même parce que vous ne pouvez déjà pas vous aimer. Donc, quel amour allez-vous utiliser pour l'autre? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset que je vous ai lu en démarrage. De la même manière, quand vous dites « j'aime Dieu », comment est-ce que tu aimes Dieu si tu détestes qui tu es alors que tu as été créé à son image et que Dieu te dit qu'il t'aime? Je ne dis pas que vous êtes parfait. Je dis simplement qu'il faut apprendre à vous aimer de la façon dont Dieu vous dit qu'il vous aime. Alors, c'est un vrai problème parce que comment se fait-il qu'on reçoit les critiques plus facilement que les compliments et que souvent ça nous en sert comme une gangue et qu'on ne sait pas s'en dépatouiller, qu'on ne sait pas se débarrasser de cela et rester debout dans qui l'on est dans notre marche avec Dieu? Alors voyons les causes ensemble. La première, celle qui est à l'origine sans doute de tout, c'est un problème d'identité. Et c'est toujours un problème d'identité. Dans le livre 3 de la Genèse, quand Satan approche Adam et Ève, il leur dit « Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » C'est-à-dire que vous serez comme Dieu si vous prenez de ceci. Peut-être qu'au fond, Dieu ne vous a pas tout dit. Et si vous faites cela, alors vous serez comme lui. Et en obéissant à cela, ils avaient complètement oublié une chose, c'est que deux chapitres avant, il est écrit « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. » Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et le piège s'est refermé sur eux parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient déjà été créés, ils étaient à l'image de Dieu par leur position en Dieu. Qui ils sont, ils étaient à l'image de Dieu. Et ils n'avaient rien à rajouter. La force du diable, il les a fait croire que ça partait d'une bonne intention. Si tu fais quelque chose, alors tu plairas à Dieu, alors tu seras comme lui. Et vous savez quoi? Le même mensonge fonctionne toujours aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. J'ai un doute. Est-ce que Dieu m'aime vraiment autant qu'il aime telle sœur ou tel frère? Et si je faisais ça en plus, peut-être qu'alors je serais comme il le veut. Alors je serais comme. Oubliant complètement que c'est ta nature qui te donne qui tu es, qui fait de toi qui tu es, pas ce que tu fais pour le devenir. Tout du moins sur le point de vue spirituel. Ça nous rappelle une chose aussi, c'est la deuxième cause, c'est que l'on a un adversaire qui est vivant. Je ne sais pas si vous croyez dans l'existence de Satan, j'y crois parce que la Bible en parle. Et que cet adversaire, il est actif et que son désir, c'est de nous tromper sur qui nous sommes. Il fait tout pour que nous ne sachions pas, que nous ignorions que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons été créés à son image et que cela entraîne le fait que nous avons des attributs qui sont ceux de notre Père, qui sont le code génétique de notre Père. Et il fait tout, non seulement pour que nous l'ignorions, mais que nous puissions l'oublier aussi. C'est-à-dire que nous vivions comme si ce n'était pas vrai. Je le sais intellectuellement, mais je ne le crois pas pour moi. Je crois que ça peut s'appliquer pour quelqu'un d'autre, mais dans ma vie, je ne le mets pas en pratique et je ne le vis pas au quotidien. Je ne le crois même pas parfois. J'ai été affranchi, j'ai été délivré, Dieu m'a délivré de mes problèmes, de mes péchés, mais je vis encore comme si j'étais un esclave, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que ça signifie que d'avoir été créé à l'image de Dieu et d'être son enfant. Et il me semble qu'il faut que j'en fasse plus pour être approuvé de Dieu et gagner son amour. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, le piège s'est déjà refermé. Une autre possibilité, une autre cause, c'est notre héritage familial. Adam et Ève avaient reçu en plus de la capacité de concevoir la vie et de donner la vie à d'autres êtres humains, celle de leur transmettre l'amour, c'est-à-dire Dieu. Dieu est amour. Donc, en transmettant l'amour, ils transmettent une compréhension de qui est Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons eu un papa ou une maman, ou bien juste un papa ou juste une maman, peut-être aucun, mais certaines personnes peut-être ont joué ce rôle dans votre vie. Et vous avez reçu d'eux inconsciemment une notion de l'amour pendant que vous étiez jeune et même après, vous avez vu comment l'amour fonctionnait, vous en avez compris quelque chose. Et cela a façonné, sans que vous vous en rendiez compte, l'image que vous avez par rapport à vous-même et l'image que vous avez par rapport à l'amour de Dieu pour vous. Et évidemment, c'est facile de comprendre qu'aucun d'entre nous, même avec les meilleurs parents du monde, ayant les meilleures intentions, aucun d'entre nous n'avons reçu une image de l'amour de Dieu qui soit parfaite. Parce que nos parents non plus n'étaient pas parfaits, peut-être que même non plus n'avaient pas reçu ce qu'il fallait. Et donc, sans le savoir, on a sur nous, et en plus, il y a eu des maltraitances ou des négligences, ça aggrave encore la chose, mais on a le sentiment que, peut-être si c'était le cas dans votre famille, il fallait avoir de bonnes notes ou être performant pour être vu. Par rapport à tel frère ou à telle sœur, ou avoir plus d'écoute et d'attention de la part du papa ou de la maman. Et donc, il fallait prouver quelque chose, il fallait amener quelque chose pour pouvoir bénéficier de l'amour qui pourtant est dû à chacun. Et évidemment, quand on a grandi dans cet état d'esprit-là, ça nous influence comme une paire de lunettes influence la façon dont je vois la vie. Et bien, ce genre de choses influence la façon dont je me vois moi-même et dans mes relations avec les autres. Il faut que nous en prenions conscience. Le fait de se convertir nous aide à rectifier le tir, mais pas entièrement. Après, il y a ce que la Bible appelle la sanctification, qui fait qu'on doit travailler à comprendre mieux jour après jour et vivre l'amour de Dieu pour nous. Une autre cause, c'est celle qui vient de la pression des gens avec qui l'on vit. On peut l'appeler notre éducation, on peut l'appeler notre culture, mais là aussi, ça influence l'image que l'on a de soi. Peut-être qu'au travers de vos amis, de vos frères et sœurs, de vos parents, j'en ai déjà parlé, de vos collègues, de votre conjoint, on vous a dit qu'il fallait être comme ceci ou comme cela pour être accepté. Alors vous bossez inconsciemment ou consciemment pour être accepté. Mais le problème, c'est que ça ne suffit jamais, ou surtout vous dépendez de ce que pensent les autres de vous. Et cela vous met automatiquement dans des boîtes, ça vous restreint de qui vous êtes, et vous avez le sentiment que qui vous êtes, vous ne pouvez pas le leur dire, vous le cachez à l'intérieur, parce que ce n'est pas accepté, ou ça ne sera pas bien reçu, ou pas bien compris. Mais en même temps, cela vous coupe les ailes, ça crée toutes sortes de frustrations. Quand on est dans cette situation-là, eh bien, on essaye de compenser en faisant plus. Si j'en fais plus, alors peut-être finalement j'y arriverai. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ? Avant ma conversion, j'étais étudiant sur Paris, j'étais dans la meilleure fac pour ce que je faisais, c'était là où je voulais aller. Je me dis, quand je serai là, eh bien, j'aurai ce qu'il me faut et je serai heureux. Et quand j'ai été à ce niveau-là, eh bien, il m'a semblé qu'en fait, ça s'était éloigné de moi, il me fallait encore quelque chose de plus. Et chaque fois que j'avais ce quelque chose de plus, ça s'éloignait encore un coup de moi, il fallait que j'aie encore quelque chose de plus. Et en fait, on court après quelque chose qui s'éloigne toujours de vous. Parce que si vous cherchez à découvrir qui vous êtes au travers de ce que vous faites, vous ne le trouverez jamais. Vous suivrez ce que les autres disent, mais vous ne suivrez pas ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et au bout du compte, on se perd à ce jeu-là. Et on se perd et le risque, c'est d'un jour de se réveiller et de se dire, mais pour qui et pour plaire à qui est-ce que j'ai vécu la vie que j'ai vécue ? J'ai cherché à plaire à tellement de personnes, mais peut-être finalement je n'ai pas même trouvé comment plaire à mon Dieu et être en accord avec qui je suis. Une autre cause peut être le non-pardon. Peut-être que certains ont commis des erreurs, gâché certaines choses dans leur vie, vous dites « c'est pas possible que j'étais aussi bête que ça », et puis finalement vous vous êtes arrêté là, vous êtes resté bloqué, et puis depuis ça n'a pas évolué. Parce que quand il y a non-pardon, eh bien on se coupe volontairement de l'amour de notre Père pour nous. Et on reste bloqué dans une position de victime où on se dit, mais c'est pas ma faute, ça m'est arrivé, ou alors c'est ma faute et je peux pas me pardonner ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et je reste bloqué là, sans possibilité de croissance. Ça veut pas dire que je ne crois pas dans l'amour de Dieu, ça veut pas dire que je ne crois pas dans sa capacité à guérir, sauver, etc. Mais simplement, je ne crois pas que c'est pour moi. Je ne crois plus que ce soit pour moi. Et vous savez, ça peut atteindre absolument n'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous. Quand on commence à annoncer des choses que l'on ne croit pas, il y a quelques semaines, on était avec un couple de missionnaires qui ont amené l'évangile à des centaines de milliers de personnes. Et cet homme nous disait très très sérieusement, c'est la raison pour laquelle il était là, je crois que Dieu est celui qui guérit, je crois qu'il a des promesses de délivrance, de salut, mais je ne crois pas qu'elles soient pour moi parce que je ne les vis pas. Et vous savez quoi ? Il blâmait Dieu pour cela. Il disait, ce que Dieu dit est vrai pour tout le monde, mais pas pour moi. Comment est-ce qu'on peut se retrouver bloqué comme ça ? C'est un petit peu comme cet homme à la piscine de Bethesda qui, quand Jésus lui demande « Est-ce que tu veux être guéri ?» il ne répond pas « Oui ». Il explique en blâmant Dieu quelque part que quand l'ange descend, etc., et puis il y a toujours quelqu'un avant lui, en gros, quand tu envoies ton ange, tu ne fais pas attention, ce n'est pas moi qui suis à côté de la piscine. C'est intéressant de voir comme il blâmait Dieu. Et puis surtout, être guéri, c'était une prise de risque, c'était avoir à redémarrer une autre vie, et ça le faisait peur. Il était tellement, depuis tellement longtemps, bloqué dans sa maladie, et c'était devenu son identité. Peut-être que tu en veux à Dieu pour une maladie, ou pour une situation, quelque chose qui t'est arrivé, et tu as laissé cela te définir. Maintenant, je suis celui ou celle que Dieu n'aime pas, ou Dieu a permis telle ou telle chose, et c'est la preuve qu'il ne m'aime pas. Vous croyez que c'est possible d'en arriver là ? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à rester bloqué. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède et que Dieu le voit. Vous savez, quand on gronde nos enfants, si vous avez des enfants, vous savez très bien que parfois, ils ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, donc on va les gronder puis ils se mettent à bouder contre vous. Et si vous revenez vers eux, vous leur dites « Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? T'as un problème ?» Ils ne vont pas vous répondre parce que leur problème, précisément, c'est avec vous qu'ils l'ont. Donc, ils ne peuvent pas vous en parler. Mais vous, en tant que papa ou maman, ou si vous êtes le tonton ou la tati, eh bien, vous savez ce qu'il y a. Peut-être que certains d'entre nous sont bloqués dans la même position. Vous avez puni Dieu au silence, vous avez cessé de prier, vous avez cessé de chercher sa présence parce que quelque part vous lui en voulez et c'est comme une bouderie. Mais c'est une bouderie qui a trop duré, qui a eu trop de conséquences négatives dans votre vie. Alors le remède, avant que je vous le donne, je voudrais simplement vous dire qu'il est sans contre-indication et il est bon. Et ce n'est pas le moment d'être TTS. Vous savez ce que veut dire TTS ? Ça veut dire très très spirituel. Mais tellement spirituel que vous êtes plus spirituel que Dieu. Attention aux raisonnements religieux qui nous disent « tu n'as pas le droit de t'aimer, tu n'as pas le droit de t'apprécier au-delà, sinon tu vas tomber dans l'orgueil, etc. » Ce n'est pas cela que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire « faites de vous-même une idole, devenez narcissique, admirez-vous tous les matins, quoique ça peut vous faire du bien. » Parce qu'on peut avoir des fois tendance à fuir les miroirs aussi. Et donc peut-être arrête-toi, regarde dans le miroir et puis remercie Dieu pour la personne que tu vois en face de toi, parce que Dieu est fou d'amour pour cette personne. Et ce qu'il aimerait, c'est que tu le sois aussi. Alors ça veut dire quoi être fou d'amour pour soi ? C'est pas être en train de tomber dans l'orgueil, ni de devenir une idole pour soi-même, c'est découvrir comment Dieu t'aime véritablement. Et avoir ce même amour dans ton cœur que lui te porte. Savoir comment lui te voit et accepter de recevoir cet amour. Lisons ensemble dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 19. C'est Paul qui parle et voici ce qu'il dit. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Tellement il a besoin que ceux de son époque le comprennent et nous aussi. De qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. L'endroit où on reçoit l'amour, c'est la famille. Je lui demande qu'il vous accorde à mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi enracinée et solidement fondée dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. De toute la plénitude de Dieu. Et si on continue juste un chouïa, même si ce n'est pas marqué là, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons à lui soit la gloire. Dieu veut te donner bien plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui possible, parce qu'il est fou d'amour pour toi. Et quand on est fou d'amour, le meilleur est à peine acceptable. On veut rien de moins que le mieux pour la personne que l'on aime. Et Dieu ne veut rien de moins que le meilleur pour toi. Pas le bon. Le bon, il le jette. Il veut le meilleur, parce qu'il est fou d'amour pour toi. Parce qu'il est ton père. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous avons un papa qui est jaloux de l'amour qu'il a pour nous. Parce que d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire à moi pour l'affection que je te porte. Par l'affection que je te porte. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous attirer vers lui. Parce qu'il a, nous sommes sa fiancée, parce qu'il nous trouve beaux et belles spirituellement, parce qu'il a tout fait pour nous, et parce qu'il se languit du jour où il sera réuni avec nous pour l'éternité, dans ce que l'on appelle les noces de l'agneau. Hier soir, avec Rachel, on était à un mariage, c'était beau, on connaissait les mariés depuis longtemps, la mariée surtout, mais c'était beau de les voir enfin, après avoir attendu toutes ces années, être ensemble. Eh bien, Dieu se languit infiniment plus du moment où il sera réuni avec nous. Mais il nous aime déjà. Il nous aime déjà. Il veut que nous soyons heureux dans cette perspective. Il est un papa, comme ce papa qui est allé à la rencontre de ses deux fils dont je parlais, qui est sorti pour les deux. Celui qui avait péché, qui lui disait « Je ne peux plus être ton fils », il dit « Mais tais-toi, arrête !» Et il lui a redonné une bague, un vêtement, des chaussures, parce qu'il est son fils. Et peu importe qu'il se soit détourné pendant un temps, son amour pour lui n'avait pas changé. Parce que ce n'est pas ce que nous faisons qui rajoute de l'amour à Dieu pour nous, ni ce que nous faisons qui peut en enlever. Il nous aime d'un amour fou. De la même manière, il est allé chercher l'autre. Et Dieu n'est pas qu'un papa, il est aussi une maman. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu dire que Dieu est une maman, que Dieu soit une maman, mais pourtant, l'Écriture dit, Sion, c'est-à-dire Jérusalem, dit « L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Mais même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. » Qui est-ce qui dit cela? C'est notre Dieu. Peut-être que c'est difficile pour vous parce que vos parents ne vous ont pas aimé, mais si vous avez des enfants vous-même, si vous avez des neveux ou des nièces ou des gens dans votre famille avec des enfants que vous aimez, vous comprenez ce que ça signifie. Dieu nous aime. Et notre véritable identité, vous savez où elle est? Il l'a cachée en Christ. Il nous aime en tant que Père, mais voilà ce que dit l'Écriture, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et qui est Christ? Il est son Fils, comment? Bien-aimé. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, dès maintenant. Lisons ensemble dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 4 et 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés pleinement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous lisez dans Éphésiens 2, 6, par votre union avec Jésus-Christ, Dieu vous a ressuscité ensemble et vous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Comment est-ce que Dieu vous voit? Et où est-ce que vous êtes spirituellement? Vous êtes assis en Christ sur le trône aux côtés de Dieu. Là, si je n'ai pas une volée de « Amen », vous êtes assis sur le trône avec Christ à côté de Dieu. Dites-moi, il y a un endroit plus élevé dans le ciel que le trône de Dieu? Pas vraiment. C'est pourtant ce qui vous êtes. Et vous ne l'êtes pas parce que vous l'avez mérité, vous ne l'êtes pas parce que vous avez fait des choses, vous l'êtes parce que vous êtes, par votre nature, enfant de Dieu en Christ, parce que vous avez dit oui à l'action de Christ à la croix. Il n'y a rien au-dessus de cela. Jésus n'était pas puissant sur terre parce qu'il était le Messie. Il était puissant sur terre parce qu'il savait qu'il était son Fils. Et le jour du baptême de Christ, quand le Père est venu, il a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Tu es sa fille bien-aimée, tu fais toute sa joie. » Parce qu'il te voit au travers de son Fils. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce que le diable veut que vous ne viviez pas. Ça, c'est ce dont il veut que vous doutiez en permanence. Parce qu'à cela est attachée toute la richesse de l'Éternel, tout l'amour du Père pour vous, toute sa présence à chaque instant. Jésus dit, je sais que tu m'exauces tout le temps. Parce que Jésus priait selon le cœur d'amour du Père. Donc il n'y avait rien entre le Père et lui qui puisse se séparer. Et si quelque chose me sépare du Père, je sais que si je confesse cela, il est fidèle et juste pour me pardonner et me rétablir. Ce qui veut dire que rien ne peut me séparer de son amour. C'est exactement comme pour Christ, parce que nous avons son esprit. Quand le diable vous coince avec de la culpabilité, de la honte, rappelez-lui que la Bible dit « c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères ». Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur pour te pardonner. Ça aussi, c'est ce que l'Écriture dit. Vous savez, la culpabilité, elle vous coince et elle ne vous offre aucune issue, elle vous offre que le désespoir et le découragement. Elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, pas plus que la honte. La conviction de péché vient de l'Esprit de Dieu, parce que quand Dieu nous convainc d'une erreur, il nous montre le chemin pour en sortir. Ça, c'est la façon de faire de notre Dieu. Quand la peur et le doute sont constamment en train de tourner dans ton esprit, l'objectif, c'est que tu sois paralysé, que tu ne marches pas comme un enfant de Dieu, mais que tu restes pétrifié sans rien faire dans ta prison. Et que tu oublies que cette prison, eh bien, les barreaux ont été ouverts, les cadenas ont été brisés pour toi. Alors la décision, elle est maintenant. Je vais vous demander de prendre une décision, de ne pas laisser le moment traîner. Aujourd'hui est un jour de jubilé. Le jubilé, c'était le moment où, pour Israël, tous les Hébreux avaient, au bout de 50 ans, toutes leurs dettes étaient effacées. Et pour ceux qui avaient perdu leur liberté, ils retrouvaient leur position d'enfants de Dieu pleinement héritiers des promesses faites dans la terre promise par Dieu pour eux. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que depuis que Christ est venu, nous sommes constamment dans un jour de jubilé. C'est une année de jubilé qui ne s'est pas arrêtée. Pour saisir cette chance, il faut que vous preniez une décision, et cette décision, elle est là. Il faut que vous acceptiez de passer d'une mentalité de serviteur ou d'employé à une mentalité de fils ou de fille. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes un bon employé, si vous bossez bien, si votre patron est content de vous, vous avez de bons résultats, de bons chiffres, qu'est-ce qui va vous arriver? Au moins, il va vous féliciter. Au mieux, vous allez avoir une augmentation, voire un nouveau job avec plus de responsabilités. Vous êtes d'accord? Par contre, si vos chiffres sont mauvais, si vous ne réussissez pas comme vous deviez réussir, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un blâme et vous risquez aussi d'être licencié. Le problème d'avoir cette mentalité, c'est qu'on n'est jamais sûr et qu'en fait, il faut toujours performer, faire pour plaire, parce que si jamais on ne produit plus, si jamais on ne fait plus, eh bien, je vais perdre l'amour qu'on a pour moi. Eh bien, si c'est votre façon de vivre votre foi, vous vivez comme un employé ou comme un serviteur, mais pas comme un fils ou une fille. Vous travaillez pour mériter ou gagner le sourire de Dieu, mais vous ne travaillez pas à partir de son sourire. Et si vous cherchez, comme j'ai déjà dit, à découvrir qui vous êtes en faisant plus, vous vous perdrez. Parce que dans cette façon de se voir, il y a uniquement de l'anxiété, du stress, des peurs du rejet, peurs de toutes sortes d'incertitudes, et il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de paix. Or, Dieu nous appelle à vivre dans la paix et dans la tranquillité qui seront notre force. La position d'un enfant, l'Écriture dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. C'est de se dire peut-être que là j'ai foiré, peut-être que là ça n'a pas marché comme je voulais, peut-être que je me suis trompé, mais je sais que mon Père m'aime. Et ce n'est pas une permission de faire n'importe quoi, parce qu'on a envie de plaire à celui qui nous aime et on a envie de vivre dans son amour. Et on sait ce que son cœur met dans le nôtre et on a envie de marcher selon sa volonté. Et c'est l'échec ou le manque de réussite ne changeront rien, parce que l'Écriture dit bienvenue bon et fidèle serviteur, pas bon et serviteur rempli de succès, rempli de résultats, non. Ce que nous faisons n'enlève rien, ce que nous faisons ne retranche rien son amour pour nous. Alors, concrètement, que faire? Aujourd'hui, peut-être est-ce le moment pour vous de pardonner. De vous pardonner à vous-même, ou bien de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, ou bien de pardonner à Dieu parce que vous êtes fâché contre lui et vous êtes dans une bouderie qui ne vous a que trop coûté vis-à-vis de Dieu. Dites adieu à cette position et présentez-vous devant Dieu comme son enfant en disant « Papa, je me suis planté, mais j'ai besoin de ton amour. Je veux sortir de cet état où je suis dans le silence et je te punis par mon silence alors que vous ne vous punissez que vous-même. » Peut-être que c'est le moment de repérer tous ces mensonges, ces étiquettes, ces boîtes dans lesquelles on vous a mises, ces peurs que vous avez, de les écrire noir sur blanc et de confesser la vérité contre ces mensonges dans lesquels le diable vous tient lié, et de redécouvrir la grâce de Dieu qui est bonne et nouvelle tous les jours. En utilisant la grâce de Dieu hier, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois, tu ne l'as pas épuisée parce que tous les jours elle est renouvelée. Tous les jours elle est bonne. Et on ne peut pas épuiser la grâce ni l'amour de Dieu vis-à-vis de nous parce que nous sommes ses enfants. Et maintenant, je termine vraiment en vous disant, choisissez d'être heureux. Parce qu'être heureux, c'est une décision, si bizarre que ça puisse paraître. Ça ne dépend pas de ce qu'on possède, ça ne dépend pas des drames que l'on peut vivre, ça dépend de notre position de cœur et d'accepter complètement le fait que Dieu nous aime et d'accepter cet amour pour soi. Et c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Si vous présentez devant le Seigneur dans cette dimension-là, alors vous découvrirez ce qu'il a préparé pour vous. Et vous travaillerez et vivrez à partir de son sourire que vous avez renouvelé tous les jours. Est-ce qu'on a le droit de parler honnêtement et de faire tomber les masques? Est-ce que certains vont dire « oui, j'arrive pas à m'aimer comme Dieu m'aime » Et vous avez raison de le dire, et mieux, vous avez raison de le lui dire. Parce que son désir, c'est de vous délivrer de cela. Je vous invite à priez avec moi, j'invite l'équipe de louanges à me rejoindre. Et pendant le dernier chant et pendant que je vais prier, eh bien, adressez-vous à votre papa. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez là où vous en êtes et demandez-lui son aide. Seigneur, je te loue pour ces deux versets que tu nous as donnés, où tu nous appelles à t'aimer et à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, il n'y a pas de piège pour nous, ce n'est pas quelque chose d'impossible pour nous de réaliser, simplement nous avons un ennemi qui nous poursuit en permanence. Maintenant, je me trouve devant ton Église et je te demande de toucher les cœurs de ceux et celles qui se sont sentis concernés, de les amener, Seigneur, à prendre une décision avec toi. Que ce jour, aujourd'hui, soit un jour de jubilé, afin que ta fille, que tu aimes à la folie, afin que ton fils, pour lequel tu t'es langui tellement, puisse venir vers toi et découvrir la joie qu'il y a en toi, en réalisant simplement que cette joie vient du fait que nous sommes tes enfants, parce que c'est toi qui nous appelles ainsi, parce que tu as tout donné à la croix pour que nous le soyons pleinement. Tu nous as adoptés. Seigneur, merci. Conduis-nous dans ta présence maintenant. Amen.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir. Seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Alléluia.
se lever tous ensemble, chanter Alléluia.
Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.